Sylvie Lesquelles? Est-ce que c'est nos bonnes résolutions du 1er janvier? Peut-être qu'on ne s'en souvient même plus. Peut-être que vous avez arrêté d'en faire. Ça ne sert à rien, vu que de toute façon, on n'arrive plus à les tenir. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'on pourrait vraiment faire le bilan de notre année selon qu'on ait réussi ou pas à tenir ses résolutions, à réussir ce régime, à aller plus souvent en salle de sport, à regarder moins la télé, je ne sais pas quoi d'autre? Ces résolutions peuvent souvent sembler un peu anecdotiques ou futiles, et ce ne serait quand même pas suffisant pour mesurer qu'on ait passé une bonne année ou pas. Et en fait, j'ai envie de nous suggérer que c'est peut-être pas forcément le plus important d'avoir des objectifs pour une année donnée. Mais est-ce qu'on a des objectifs pour notre vie? Et si oui, quels sont ces objectifs? On n'a pas forcément consciemment des objectifs. On sait tous, je veux atteindre ceci, cela. Mais parfois, implicitement, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, qui sont en quelque sorte comme des objectifs. Alors, ce matin, on va s'intéresser au bilan de la vie de deux personnages bibliques, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, et on va essayer d'en tirer des conséquences pour nous et pour voir quels objectifs on pourrait avoir dans nos vies. Alors, le premier personnage, alors moi j'aime bien les devinettes. On a vu que les enfants étaient assez forts pour trouver les devinettes, on va voir si vous l'êtes autant. Alors, je vais vous donner quelques indices, on va voir à partir de quand vous trouvez le personnage. C'est un des personnages les plus connus de l'Ancien Testament. Il a grandi dans un palais. Ah, Moïse. Bravo. Il y en a eu plusieurs, hein, mais vous avez trouvé le premier coup. Parfait. Alors, si vous n'avez pas grandi dans une famille chrétienne, ni juive, ni même musulmane, vous avez probablement déjà entendu parler de Moïse. Peut-être à travers du film Les Dix Commandements, la comédie musicale du même nom, ou encore le dessin animé Prince d'Égypte. Moïse est donc cet enfant né dans une famille israélite qui était esclave en Égypte il y a plus de 1500 ans avant Jésus-Christ. Et pour éviter que leur fils ait été tué, les parents du bébé Moïse l'ont caché dans un panier, sur le Nil. Mais il a été découvert par la fille du pharaon qui passait par là, qui a trouvé qu'il était trop mignon et qui l'a pris pour elle et l'a fait élever dans son palais. Une fois qu'il était adulte, de prince, il se promenait un peu dans la rue, entre guillemets, et il a vu un contremaître égyptien qui maltraitait un esclave israélite. Et ça l'a profondément choqué, il s'est interposé, il a tué cet égyptien, mais ça lui a valu d'être condamné à mort lui-même. Le pharaon était furieux et a voulu le tuer. Donc Moïse a dû s'enfuir, il est allé à Madian, donc Madian c'est ce côté-là, l'Arabie. Il fallait qu'il soit le plus loin possible pour être hors de portée du pharaon. Et donc il a refait sa vie là-bas, des années se sont passées. Et un jour, il a eu un épisode tout particulier où il a rencontré Dieu dans un buisson qui était en flamme et qui ne s'éteignait pas. Et Dieu se révélait à lui et lui a confié une mission toute particulière, celle de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Moïse a ce défi, il ne voulait pas accepter cette mission, mais il a fini par faire ses convaincre par Dieu. Je veux dire, il n'a pas vraiment le choix. Après, on connaît probablement l'épisode des 10 plaies d'Égypte, où Dieu montre sa puissance par rapport au pharaon. Et on connaît peut-être aussi l'épisode où le peuple d'Israël a pu sortir d'Égypte in extremis en traversant un bras de mer qui avait été desséché juste temporairement par miracle et qui s'est refermé ensuite sur les Égyptiens qui les poursuivaient. Le peuple se retrouve alors dans le désert. Tout ça, c'est un désert. Il y a un enchaînement de plusieurs déserts. Et tout est à construire. Vous imaginez un peuple qui était esclave, qui était immigré, qui n'avait jamais décidé de rien. Il se retrouvait autonome, en liberté. Et c'est vraiment l'Éternel, Dieu, qui a pris l'initiative pour construire, pour constituer ce peuple. Et il a établi une alliance. C'est Dieu qui a fixé les règles et il leur a donné la loi. Et celle-ci commence par ce qu'on appelle souvent les 10 commandements ou le décalogue. Et j'aime bien dire souvent que ces 10 commandements, ça représente un peu comme la constitution tout ne s'arrête pas là, les choses se compliquent. Les Israélites ont du mal à s'adapter à leur nouvelle vie. Certes, ils sont libres, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Et donc, ils se mettent à râler et ils se révoltent contre Moïse, contre Dieu. Alors, on dirait des Français un peu. Et par conséquent, l'Éternel va devoir temporiser un peu le plein accomplissement du plan qu'il avait prévu pour son peuple, c'est-à-dire d'entrer dans le pays promis qui était Canaan. Et ils vont porter 40 ans dans le désert avant de pouvoir enfin arriver au pays promis. Et Moïse lui-même va mourir juste avant que le peuple n'entre dans le pays promis, à la frontière. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et pour tout vous dire, quand j'ai pensé au thème du jour, faire le bilan, ma première pensée a été tout de suite cet épisode où Moïse se retrouve avec le peuple à l'entrée du pays promis et où ils sont amenés à faire le bilan de tout ce qui s'est passé depuis qu'ils ont reçu la voix de Dieu, depuis qu'ils ont eu cette alliance avec Dieu. Et en fait, le livre des Deutéronomes, qui est le cinquième livre de la Bible, dit deuxième loi, en fait, c'est là où Dieu a rappelé les termes de l'alliance et donc la loi au peuple. Pour lui rafraîchir les idées avant d'entrer dans le pays promis. C'est aussi que, vu que 40 ans s'étaient passés, tous les jeunes qui étaient vaillants à cette époque-là, ils n'avaient pas connu l'alliance à l'époque, la loi à l'époque. Donc il fallait vraiment qu'ils aient les idées au clair avant d'entrer dans le pays. Alors on va revenir sur Moïse plus spécifiquement pour faire le bilan de sa vie. Quand on fait le bilan de la vie de quelqu'un, on regarde les aspects positifs, les aspects négatifs. Les aspects positifs, on va dire que si Moïse est un des personnages les plus connus aujourd'hui, c'est pas par hasard. Dès son plus jeune âge, et jusqu'à sa vieillesse, son histoire était vraiment hors norme. Et son rôle a été crucial pour le démarrage du peuple d'Israël. C'est lui qui a quand même conduit le peuple hors d'Égypte, comme on l'a vu. C'est lui qui a retranscrit la loi. C'est un gros boulot. Et on peut vraiment considérer que ça, c'est un bilan impressionnant. Et ce que je vous propose, c'est qu'on lise les derniers versets du Deutéronome, donc il est tout fin de cette première partie de la Bible, où on voit un peu quel est le bilan qui est fait à la vie de Moïse. Au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Aucun ne fut son égal pour tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel l'avait envoyé accomplir en Égypte devant le Pharaon, devant ses ministres et tout son peuple. Et pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse a accomplis aux yeux des Israélites. Alors, ce n'est pas un bilan extraordinaire qui est fait ici, qui ne laverait pas, comme on dit, autant de lui à sa mort. Et c'est intéressant de relever qu'est-ce qui est considéré comme important, comme positif dans le bilan de la vie de Moïse. Première chose, c'est la qualité de sa relation avec Dieu, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Et c'est aussi tout ce qui est miracle, prodige, autre acte puissant qu'il a accompli en Égypte et aussi par la suite dans le désert. C'est vrai que c'est un bilan impressionnant. Mais, il y a un mais. Il y a un bémol. Et non des moindres. C'est que finalement, Moïse n'aura pas pu voir le plein accomplissement des promesses de Dieu pour son peuple. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas pu entrer dans le bon pays promis. Il a dû s'arrêter à la frontière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un épisode qui a tout fait rater. Alors, juste pour situer un peu le contexte, on est en pleine période de crise dans le peuple d'Israël. Ils sont dans le désert. Myriam, la grande sœur de Moïse, vient de décéder. Donc, on peut penser qu'il était aussi un peu perturbé par ça. Il n'y avait plus d'eau. Et le peuple, qui était déjà très nombreux à cette époque, commençait à vraiment l'avoir mauvaise et à être très agressif contre Moïse et Aaron, son frère, qui l'accompagnait. Et Moïse était vraiment au plus bas, et il a crié à Dieu. Et voilà la suite de cette histoire. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Prends ton bâton, et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher, pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles que vous en faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Moïse leva la main et par deux fois frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Vous ne m'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas rentrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. Ce sont là les eaux de Meriba, ce que dire la querelle, où les Israélites avaient cherché querelle à l'Éternel et où il manifesta sa sainteté devant eux. » Alors cet épisode peut nous déranger. On a peut-être du mal à comprendre quelle est la gravité du problème en ce qui concerne Moïse. Quelle est au juste la faute qu'il a commise? Est-ce que c'est un accès de colère face au peuple? Ou alors il n'aurait peut-être pas respecté scrupuleusement les consignes en frappant le rocher au lieu de simplement lui parler? Il y a beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé pour essayer d'expliquer et comprendre ça. Mais ce qui est vraiment explicitement reproché ici à Moïse et à son frère, c'est d'avoir manqué de confiance en Dieu, de ne pas lui avoir été fidèle et de ne pas avoir honoré sa sainteté, pour reprendre le terme qu'il utilisait ici. Alors on donnerait bien à Moïse des circonstances atténuantes quand même, en étant en pleine situation de crise. Et puis, finalement, le miracle a bien eu lieu. L'eau est sortie du rocher, tout le monde a pu se désaltérer, tout est bien qui finit bien. Mais non. Toujours est-il que ça a coûté à Moïse, à Aaron, et d'ailleurs à cette génération du peuple aussi, ça a coûté l'entrée dans le pays promis. Et pourtant, plus tard, on voit que Moïse retente sa chance. Peut-être qu'il s'est dit que la pression retombait un peu, que Dieu a un peu oublié, et il redemande. On se retrouve pour Deutéronome. Donc à cette époque-là, dit Moïse, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant, « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. En effet, quel Dieu y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir? Laisse-moi traverser, je t'en prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel était irrité contre moi. À cause de vous, et il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit, en voilà assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de ton Dieu, car tu ne passeras pas le jour. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple, et tu le mettras en possession du pays que tu veux. L'Éternel lui a opposé une fin de non-recevoir, comme on dirait. Ne me parle plus de cette affaire. Le mal était fait, c'était trop tard. Alors, si de là on fait le bilan de la vie de Moïse, on peut rester un peu sur notre fin. D'un côté, il y a ce côté, il y a tout ce qui est extraordinaire, ce qui est hors norme dans la vie de Moïse, on peut dire quand même, c'est un homme génial. Mais, bénéficier de l'accomplissement de la promesse. Tout ça pour un malheureux incident. C'est dur. Et ça peut nous faire réfléchir sur le niveau d'exigence attendu par Dieu. Dieu ne nous demande pas juste de faire des choses extraordinaires ou d'être meilleur que les autres. Ce qu'il attend de nous, c'est une vie d'absolue fidélité, sans faute. La barre est placée vraiment haute. Alors, venons-en à notre deuxième personnage dans le Nouveau Testament. C'est encore plus facile à trouver. Un petit indice, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres dans le Nouveau Testament. Ah, voilà. Je vais vous en donner plus. L'apôtre Paul, bien sûr. Alors, si vous voulez un résumé de son CV, je vous invite à lire chez vous le chapitre 20 du livre des Actes, où il doit s'expliquer à Jérusalem devant des Juifs qui étaient très énervés contre lui. Et là, il déroule un peu tout son pédigré. C'est juste un petit résumé. Donc, Paul était un juif qui était né à Tarse. Et en plus de ça, il avait la citoyenneté romaine. Donc, il faisait partie de la haute société de l'époque, des privilégiés. Il avait eu une éducation religieuse d'élite, puisqu'il dit qu'il était élève du célèbre Gamaliel. Alors, en disant ça, c'est un peu comme si aujourd'hui on disait j'ai fait Polytechnique ou l'ENA. C'était vraiment le top du top. Alors, il faisait partie du parti des pharisiens, ce qu'on connaît bien dans les évangiles, qui était adversaires principaux de Jésus, qui étaient très influents sur la société juive, mais qui étaient contre Jésus, comme on le sait. Alors Paul était d'abord plus connu sous le nom de Saul, et était engagé même dans la persécution contre les chrétiens. Et un jour, tout a changé dans sa vie. Alors qu'il se rendait à Damas en Syrie, il a été stoppé net par une grande lumière. Sur cette image, qui l'a fait tomber à terre et l'a rendu aveugle. Et c'était Jésus qui se révélait à lui. Et face à une révélation aussi imposante, Paul a alors changé complètement de vie. Il a retourné sa veste, on pourrait dire. Et non seulement il est devenu lui-même chrétien, alors qu'il est persécuté, mais ensuite il est devenu un des principaux acteurs de l'expansion de l'Église. Il a été reconnu comme apôtre, comme parmi les fondateurs de l'Église, ou même dire que ceux qui avaient connu Jésus pendant son ministère terrestre. Il a fait trois grands voyages missionnaires, comme on voit sur la carte, pour fonder et fortifier des églises dans une grande partie de l'Empire romain, surtout dans l'actuelle Grèce et Turquie. Et il a passé les dernières années de sa vie en captivité et est probablement mort en prison alors qu'il était à Rome. Alors, une des choses qui me frappe chez Paul, c'est sa détermination. On voit qu'il était vraiment motivé par une vision, qu'il avait un appel très fort. C'est quelqu'un de passionné. Et c'était tellement fort que ça le poussait à faire des choses folles, dangereuses, au mépris de sa vie. Et on a vu comment il a terminé. Son engagement pour Dieu était vraiment extrême. Il ne lâche rien. Non seulement il a démarré plusieurs églises, en plus, il continue à porter tous les chrétiens qu'il connaissait dans ses prières. Et ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent dans la vie de Paul ce matin, c'est le but qui le conduisait. Lisons ce qu'il écrivait dans sa lettre aux chrétiens de Philippe, alors qu'il était en prison à cette époque-là. « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. » Car Jésus-Christ est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel pour l'union avec Jésus-Christ. C'est un texte qu'on a lu récemment avec le conseil et qui m'a vraiment interpellé. Paul parle d'un but qu'il s'efforce d'atteindre. Et c'est quoi ce but? Rien de moins que d'atteindre la perfection. Waouh! Rien que ça. On voit encore que la barre est placée vraiment haute. Moi-même, je ne me serais jamais fixé un tel but. Et on l'a vu, Paul est quelqu'un qui, par son tempérament, ne lâche rien. Et il utilise ici une image sportive, celle de la course. Et pour gagner la course, il faut être à fond tout le temps. Et ce qui le motive, c'est de remporter le prix. Et ce prix, comme il l'indique un peu plus tôt dans le passage, le verset avant ce que j'ai lu, son objectif, ce prix, c'est d'être trouvé en Jésus-Christ, c'est-à-dire fidèle à Jésus-Christ. Alors, si on fait un petit bilan de la vie de Paul, tout d'abord, en tant que chrétien du 21e siècle, on peut vraiment être reconnaissant à Paul d'avoir mené sa mission jusqu'au bout, puisque son action d'expansion de l'Église parmi les païens, c'est-à-dire parmi les non-juifs, a permis l'expansion du christianisme, et donc qu'on puisse connaître aussi, ici et aujourd'hui, l'Évangile. Donc on lui doit quand même quelque chose. Pas que lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est le bilan que Paul fait lui-même de sa vie. Et donc, c'est à toute fin de sa vie, il écrit à Timothée, qui est un peu son disciple spirituel. Et voici les dernières recommandations qu'il lui fait, c'est un peu comme son testament. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu, qui va mourir, le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Alors Paul ici a conscience de l'imminence de sa mort. Il dit qu'il va offrir sa vie. Et le bilan qu'il peut faire, c'est « J'ai combattu le bon combat. » Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire la même chose à la fin de ma vie? Et il nous en dit un peu plus sur ce prix à atteindre, que c'est la justice éternelle. En gros, c'est le sésame qui permet d'être avec Dieu. Si on n'est pas juste, on ne peut pas être en présence de Dieu. Donc c'est cette récompense, obtenir la justice éternelle. Donc, si on fait le bilan de la vie de Paul, on a vu que cet homme partait de loin, mais qu'il était farouchement opposé aux chrétiens, qu'il suivait un mauvais chemin et qu'il a radicalement changé pour le bien. Il s'est dévoué corps et âme pour permettre à l'Église de s'étendre parmi nous. La barre était extrêmement haute, comme pour Moïse. Alors venons-en maintenant à nous. Moïse, Paul, c'est bien, c'était des grands personnages, des personnes hors du commun, et on peut comprendre que pour des gens qui ont un appel particulier, un ministère particulier, il y a besoin d'exigences particulières. Mais en fait, ce qu'on comprend surtout à travers ce que Paul a écrit, et on va le voir encore, c'est que les exigences hautes qui étaient pour Paul, elles sont en fait vraies pour chaque chrétien. On n'est pas juste appelé à être des gens bien, un peu meilleurs que les moyennes. Alors, en vrai, on aime bien se comparer. Mais est-ce qu'on se compare au bon niveau? On place la barre suffisamment haute. Parfois, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, on aime bien se sentir bien en regardant les gens qui font pire. Ça fait penser dans les évangiles, il y avait un épisode où un pharisien, je crois, faisait une prière dans la synagogue et il regardait un collecteur d'impôts qui était parmi les pires personnes de la société à l'époque. Et dans sa prière, donc, ce pharisien disait: moi, je jeûne, je fais du bien. Alors que lui, c'est un pêcheur, c'est un homme de mauvaise vie. Voilà, on aime bien se comparer pour avoir l'air meilleur. Est-ce qu'on fait ça aussi, nous, en tant que chrétiens? Pourtant, le plus petit péché est une abomination aux yeux de Dieu. Contrairement à ce que le diable veut nous faire croire, il n'y a pas de péché mignon, entre guillemets. Je ne sais pas d'où vient cette anomalie de la langue française. Est-ce qu'il y a des choses en vie qu'on tolère, parce qu'on se dit, bon, on n'est pas si mal que ça, on a un peu de marge quand je regarde mon voisin, mes collègues, c'est bon. Est-ce qu'il y a une addiction qu'on tolère? Ah, c'est pas si grave. Bon, et puis j'arrête quand je veux. Est-ce que c'est l'alimentation de pensées sensuelles? Bon, c'est bon, je regarde même pas, c'est quand même pas les films X que je regarde. Du mensonge, de la triche, un petit arrangement sur sa déclaration fiscale ou une déclaration à l'assurance. Avec tout ce qu'ils nous prennent quand même, on peut essayer de gratter un peu de temps en temps, pour une fois que c'est dans le sens. Ou une relation intime, hors projet de mariage avec quelqu'un d'autre. Oh, mais j'ai besoin d'un peu d'affection, puis on fait de mal à personne. Je me suis frappé combien les chrétiens se posent des questions du type: un chrétien peut-il, ou doit-il, ou a-t-il le droit? J'en vois tous les jours sur les réseaux sociaux. Sur les forums, des chrétiens qui se posent des questions: est-ce qu'un chrétien peut faire ceci? Et c'est intéressant de réfléchir à ce qui est sous-jacent derrière des questions comme ça. C'est comme si on cherchait à chaque fois à négocier des limites avec Dieu, de ce qui est tolérable, comme si on cherchait à jouer sur deux tableaux. D'un côté, on va avoir les avantages de la vie chrétienne, on va dire: ah, merci Seigneur pour ta grâce, pour le salut, pour la vie éternelle que tu m'offres, mais on sent vraiment vouloir changer de vie et vouloir continuer tout ce qu'on faisait avant. Et c'est comme si on marchait en regardant derrière. Ça n'a pas de sens, on a trébuché. C'est devant nous qu'il faut regarder. C'est beaucoup plus motivant d'ailleurs, si on regarde ce qui est devant les chrétiens. Alors frères et sœurs, si vous vous reconnaissez dans cette règle que j'ai grossièrement caricaturée à l'instant, c'est qu'il y a un problème. Vous n'avez peut-être pas vraiment compris ce qu'est la vie chrétienne. Vous n'êtes peut-être pas vraiment habité le projet de Dieu pour son peuple tout entier, et donc pour chaque chrétien en particulier. Alors laissez-moi vous rappeler quel est cet objectif de Dieu que Dieu a martelé pour son peuple dès l'Ancien Testament et encore au Nouveau Testament. Je vais citer l'apôtre Pierre écrit dans son épître, citait lui-même un point de vue hérétique dans l'Ancien Testament. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu a dit dans l'Écriture. Soyez saint, car je suis saint. Être saint, ça ne veut pas dire faire bonne figure, être un gentil petit chrétien qui vient à l'église tous les dimanches ou qui fait sa prière, sans le, etc., avec une petite auréole sur la tête. Non, être saint, c'est ni plus ni moins que d'être pur, parfait, irréprochable, sans défaut. Alors, je vous ai cité tout à l'heure un extrait de la lettre de Paul aux Philippiens où il disait que lui, son objectif, c'était d'atteindre la perfection. Mais ce n'était pas parce qu'il voulait en faire plus que les autres pour montrer qu'il était quelqu'un de plus important que les autres chrétiens. Non, c'était les objectifs de base pour tout enfant de Dieu. Et il le dit ailleurs dans la même épître, faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans tâche au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ça ne saurait être. Les versets qui suivent immédiatement ceux que j'ai cités tout à l'heure, où Paul disait que c'était son objectif que d'être parfait, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là-dessus aussi. Seulement, au point où nous en sommes, où nous sommes parvenus, pardon, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez tous mon exemple. Et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Là, je me suis dit, il est quand même gonflé, Paul. Suivez mon exemple. Qui ose dire ça? Mais il avait probablement raison de le dire. Redécouvrir tous ces versets qu'on a cités m'a vraiment interpellé. Et je me suis demandé pourquoi toutes ces exigences de perfection me paraissaient trop hautes pour vraiment les avoir comme objectif. Je me suis dit, est-ce que c'est une certaine culture de l'humilité? On n'ose pas viser la perfection parce que sinon on va passer pour un prétentieux. Ou peut-être qu'en tant que bon protestant, on aime bien insister sur le salut qui est obtenu uniquement par la grâce et pas par les œuvres. Et peut-être qu'on a dévalorisé un peu les œuvres, dévalorisé un peu l'importance de viser, d'avoir un comportement totalement pur, parfait, sain, irréprochable. Finalement, que ça change si le salut ne dépend pas de nos œuvres. Allez, je vous mets deux petites dernières citations pour la route. Donc, le Thessaloniciens, Paul dit « Qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. » Là, il y a un truc important. Ce qui doit motiver le chrétien pour être pur et parfait, ce n'est pas juste de se satisfaire d'avoir une bonne image de lui-même. C'est qu'il faut avoir en tête la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, pour le chrétien, c'est la perspective du retour de Jésus-Christ. Et que quand Jésus reviendra, il faudra être prêt. Et donc à ce moment-là, d'être irréprochable, pour être pris avec lui, être saint. Et en plus, on ne sait même pas à quel moment ça peut venir. Ça peut être dans l'heure qui vient, dans la semaine qui vient, dans les années qui viennent, dans 100 ans, je ne sais pas. L'apôtre Pierre enfonce aussi le clou sur la même idée. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu. En attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera. Astres embrasés fondront. Peut-être que ce qui nous manque pour être motivé, pour rechercher activement la sainteté et la perfection, c'est qu'on n'a peut-être pas suffisamment les yeux fixés sur cette perspective-là du retour de Jésus-Christ. Nous devons nous préparer pour pouvoir être prêts à n'importe quel moment à son retour. Alors, en guise de conclusion, aujourd'hui on est le 31 décembre. Peut-être nos comptes sur l'année écoulée. Et j'attire notre attention que le bilan qui est plus important, ce n'est pas celui qu'on peut faire sur une année, mais sur notre vie. Et pour faire un bon bilan de notre vie, il faut avoir les bons objectifs. Et j'aimerais vraiment qu'on tête, d'avoir ces objectifs de perfection, d'irréprochabilité, de sainteté, de pureté que Dieu a pour ses enfants. Certes, Moïse et Paul étaient des personnages particuliers, hors du commun, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir des objectifs moins hauts que les leurs. Et à ce stade de nos réflexions, j'aimerais qu'on puisse tous s'examiner honnêtement par rapport à ces objectifs-là. Et si cette année, au lieu de nous fixer de nouvelles bonnes résolutions pour 2018, on réfléchissait plus en profondeur à nos objectifs de vie, de veiller à ce qu'ils soient à la hauteur des attentes de Dieu. Alors peut-être que certains d'entre nous vont trouver cela un peu trop décourageant. En général, on conseille aux gens de fixer des objectifs atteignables. Là, la perfection, elle n'est pas atteignable pour nous, de notre vivant en tout cas. Et pourtant, j'aime cette citation de l'auteur anglais C.S. Lewis qui dit « Visez le ciel et vous obtiendrez la terre aussi. Visez la terre et vous n'obtiendrez rien. » Il ne faut pas être petit joueur. Non. Il faut viser la perfection, même si on ne pourra jamais avoir cette satisfaction de l'avoir atteinte. Mais il faut que ça reste notre objectif. Il faut notre tendre vers cet objectif. Alors on dit que Gandhi avait une fascination pour le Christ, et que par contre, l'attitude des chrétiens, en tout cas ceux qui connaissaient, le retenait d'être chrétien lui-même. Bon, c'est deux citations en anglais, je ne vais pas les lire, mais en gros, il disait que « J'aime bien votre Christ, mais je n'aime pas les chrétiens. » Et si tous les chrétiens étaient comme Christ, alors toute la terre serait chrétienne. Ça fait réfléchir, ça peut nous interpeller en tant que chrétiens. Ça peut nous encourager à vraiment prendre au sérieux de vivre comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors peut-être que ce matin, comme Gandhi, vous avez une mauvaise image du christianisme. Et peut-être que ça peut être une raison pour laquelle vous dites, ouais, pour moi, c'est pas pour moi d'être chrétien, c'est tous des hypocrites, c'est moi. Être chrétien, ce n'est pas chercher à ressembler à des gens, à des humains, à des chrétiens, mais c'est chercher à ressembler à leur maître, à suivre Jésus-Christ. Et sans vouloir nous trouver des excuses, j'aime bien dire souvent que les chrétiens, en fait, sont des gens qui sont encore en chantier. Et un chantier, c'est pas très beau. Je dis, mais un chantier, normalement, est à Dubaï, ça donne pas envie d'y aller, hein, c'est pas beau. Seulement, il ne faut pas se contenter de regarder le chantier qui est en cours. Il faut avoir en tête le résultat final. Je crois que c'est pas encore fini, mais c'est un peu ce qui est censé donner ce chantier. Autrement plus impressionnant. Alors, au lieu de regarder la perfection des briques, des bouts de béton qui sont en cours de construction, regardons à la perfection de l'architecte qui a un plan merveilleux pour son peuple. Il suffit juste de voir plus loin. Vous aussi, vous pouvez faire partie de cet édifice merveilleux, l'Église, que Jésus a bâti. Je vous invite à prier. Notre Dieu, merci parce que tu es saint, tu es parfait, tu es grand, tu es tout-puissant. Il n'y a rien qui ne peut t'altérer, t'amoindrir. Et Seigneur, merci parce que tu n'es pas complaisant avec le mal, tu n'es pas complaisant avec l'imperfection, tu n'es pas complaisant avec le péché. Et oui, tu nous aimes, malgré notre imperfection avérée. Merci parce que tu nous as tendu la main. Nous arracher à cette condition de péché que nous connaissons ici sur terre. Et Seigneur, merci parce que tu as des plans qui sont meilleurs pour nous. Merci parce que tu veux nous rechercher pour nous emmener avec toi, pour partager avec toi cette sainteté, cette gloire, cette perfection, cette irréprochabilité. Et Seigneur, je te prie pour que à cette période où nous réfléchissons à nos objectifs, nous puissions vraiment être habités par tes objectifs pour nous. Seigneur, je te prie pour que nous ne soyons pas découragés au point de jeter l'éponge. La perfection, c'est trop dur. Mais Seigneur, que nous soyons encouragés. Parce que si c'est toi qui veux nous conduire là, on peut te faire confiance que tu vas nous y conduire. Ça prendra du temps. Mais Seigneur, on veut te faire confiance. Je te prie pour que tu nous encourages chacun ce matin et pendant les jours à venir et toute l'année qui est devant nous. À vraiment chercher à te ressembler. mauvaise image des chrétiens qui connaissent.